Paris, les grands titres de l'actualité de ce jeudi 26 décembre.
RFI, toute l'actualité, Gaëtan Plenet.
Et des affrontements violents hier à Tartous, en Syrie. Ils ont opposé des hommes armés et les forces de sécurité qui tentaient d'interpeller un officier du pouvoir déchu. L'Observatoire syrien des droits de l'homme évoque 17 morts. Le ministère syrien des droits de l'homme parle, le ministère syrien de la Défense parle, lui, de 14 de ses membres tués. Tartous, où, comme à Djablé et Latakié, plusieurs milliers de Syriens alaouites ont manifesté hier après l'émergence d'une vidéo montrant l'incendie d'un sanctuaire religieux. Première protestation d'ampleur de cette minorité depuis la chute de Bachar al-Assad, qui appartenait lui-même à cette communauté alaouite. En Corée du Sud, après la destitution par le Parlement du président Yoon Suk-yeol, c'est désormais celui qui assure l'intérim, Han Duk-soo, qui pourrait subir le même sort. L'opposition annonce en tout cas avoir déposé contre lui une motion de destitution. En cause, son refus de nommer des juges à la Cour constitutionnelle qui doit encore acter le renversement de Yoon Suk-yeol. Plusieurs pays d'Asie commémorent aujourd'hui le pire tsunami de l'histoire. C'était il y a tout juste 20 ans, près de 230 000 morts ce jour-là en Asie. Ce matin, une sirène a retenti pour cet anniversaire en Indonésie, le pays le plus frappé. Et puis le Mexique perd l'une de ses plus grandes voix. La chanteuse Dulce est morte, elle avait 69 ans, une voix puissante qui avait notamment séduit les festivals latino-américains et européens dans les années 70 et 80. On passe à la revue de presse africaine avec vous, Théo Renaudon, bonjour.
Bonjour.
À la une, Théo, en République démocratique du Congo, 6 drones abattus, le M23 accusé de recruter des civils.
Drones abattus rwandais, affirme l'armée de la RDC. Le site afrique.com détaille qu'ils ont été interceptés au-dessus de la localité de Mambasa, située dans le territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Le mouvement du 23 mars, M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, progresse de plusieurs dizaines de kilomètres ces derniers jours à l'est de la RDC, faisant craindre un effondrement du front.
Et la presse locale s'agite.
Parler moins, agir plus, titre le journal Soft International dans un éditorial va-t-en-guerre. Il fustige la simple communication de la RDC face au Rwanda et prône plus d'action. Il décrit « trop de communication tue la communication face au Rwanda. Nous aurions dû faire mieux, éviter de trop ouvrir la bouche, mais agir avec efficacité. Pourquoi notre pays aime tant ouvrir la bouche, alerter son entourage sur un danger qui pointe à sa porte ne manque pas de sens ?» Mais est-ce la première action à engager en l'espèce ou faut-il au contraire chercher à neutraliser le danger? Ceux qui dirigent le monde savent, ils frappent et communiquent après. D'autres titres sont bien plus mesurés. Le site actualité.cd donne la parole au prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Dans ce contexte, il appelle à organiser une conférence internationale sur la paix en RDC en 2025. Il écrit « Nous sommes tenus de nous fédérer pour imposer le respect des valeurs fondamentales, le respect de la vie, de la dignité humaine, de la liberté, de la justice, du travail, de la fraternité, qui sont les fondamentaux de notre nation et le socle sur lequel repose notre cohésion sociale. Dans cette noble initiative, j'ai la conviction que nous ne serons pas seuls », fin de citation, le médecin, ancien candidat à la présidence.
Au Maroc maintenant, Théo, débat vif, débat public, après que le ministère de la Justice a présenté sa réforme du Code de la Famille.
Le vrai match commence, titre Maroc Hebdo. Pour rappel, ce code, la Moudawana, régit de nombreux mœurs dans le royaume où l'islam est religion d'État. Le ministère de la Justice recommande donc interdiction du mariage pour les mineurs, réglementation plus stricte de la polygamie et maintien du droit de garde des enfants pour la mère divorcée, même cas en cas de remariage. Maroc Hebdo résume ainsi le paysage politique. À gauche, un camp progressiste dont les franges les plus radicales se passeraient bien de tout ce qui s'apparente à des aspérités religieuses. Et de l'autre côté, on se méfie et on ne rechignerait pas, si cela était possible, à jeter le bébé avec l'eau du bain et carrément, dans l'idéal, à revenir à un statu quo antérieur de la Moudawana version 2004. Au milieu de tout ça, le roi, seul position publique pour l'instant citée par Maroc Hebdo, ne pas interdire ce qui est autorisé, ni autoriser ce qui est prohibé. Le journal prédit d'intenses mois de débats à venir.
Et puis pour finir, l'Afrique se prépare au retour de l'ouragan Trump.
Titre de Jeune Afrique, le milliardaire américain promet de secouer le continent africain pour le meilleur comme pour le pire. Panorama des inquiétudes et quelques espoirs. Le magazine rappelle les relations tendues entre Donald Trump et le continent. Lui qui a promulgué par exemple le Muslim Ban en 2017, interdisant l'accès du territoire américain aux visiteurs provenant de la Libye, de Somalie ou du Soudan. Plus tard, les citoyens du Nigeria, de Tanzanie, d'Égypte, du Tchad, du Mali, du Soudan du Sud et de l'Érythrée ont subi des restrictions d'entrée aux États-Unis. Ce retour a donc de quoi inquiéter pour de nombreux pays africains.
Théo Renaudon pour la revue de presse africaine, 7h49 à Paris. Et la fin de l'année 2024 approche. Ça veut dire que sonne l'heure des bilans en tout genre. Et ce matin, celui de l'état de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Depuis 4 ans, elle est mise à mal par une succession de coups d'état militaires. Mais il y a aussi d'autres points plus positifs. On en parle avec l'invité de la rédaction africaine, le politologue Mathias Ungpe, qui a co-signé avec Ismaïla Madiorfal une analyse comparée des commissions électorales en Afrique de l'Ouest publiée par la fondation Friedrich Ebert. En ligne de Dakar, l'essayiste répond aux questions de Christophe Boisbouvier.
Mathias Ungpe, bonjour.
Bonjour.
Du point de vue des avancées démocratiques en Afrique de l'Ouest, est-ce que 2024 est un bon cru ou un mauvais cru ?
Oh, moi, je dirais grosso modo que c'est un bon cru parce que nous, en Afrique de l'Ouest, on a organisé des élections dans 2 pays. Et dans ces 2 pays, ces élections se sont plutôt bien déroulées avec des résultats qui témoignent de la capacité des institutions des pays concernés à jouer convenablement leur rôle et aussi de la capacité des citoyens à s'organiser pour protéger la démocratie, protéger les élections.
Alors, on va reparler du Ghana. Il y a 10 mois, au Sénégal, quand le président Macky Sall a annoncé un report de l'élection, les pronostics étaient très pessimistes, vous vous souvenez. Et puis finalement, tout s'est bien passé. Par quel miracle ?
Oh, je pense parce qu'il y a eu 2 ou 3 choses. La première, pour moi, les institutions ont bien joué leur rôle. Si vous prenez, par exemple, l'organe de gestion des élections, vous prenez le Conseil constitutionnel, chacune de ces institutions a joué convenablement son rôle. Deuxième élément important, les citoyens sont sortis pour exprimer clairement ce qu'ils voulaient. Et quand je dis les citoyens, que ce soit les citoyens ordinaires qui sont sortis dans les rues, que ce soit les organisations de la société civile, les associations professionnelles, tout le monde est sorti pour exiger ce qu'ils voulaient. Et le troisième facteur, c'est quand même que le président Macky Sall a compris que le peuple voulait autre chose et a laissé passer.
Alors, dès le lendemain du scrutin présidentiel, dès le 25 mars, et contre l'avis de Macky Sall d'ailleurs, le candidat du pouvoir sortant, Amadou Ba, a reconnu sa défaite et a appelé Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'il faut le saluer, mais il faut aussi reconnaître que c'est une habitude au Sénégal. Vous vous rappelez Abdou Diouf, vous vous rappelez Abdoulaye Wade. Donc maintenant, le candidat Ba a reconnu. Je crois qu'au Sénégal, c'est vraiment une habitude que les perdants reconnaissent spontanément leurs échecs.
Autre alternance démocratique cette année en Afrique de l'Ouest, le Ghana, où la présidentielle a marqué le retour au pouvoir de l'ancien président, John Dramani Mahama. Est-ce que le Ghana peut être un exemple pour toute la sous-région ?
Je pense que le Ghana peut l'être. Par exemple, le Ghana, c'est le pays où la commission électorale fait beaucoup d'efforts pour gagner la confiance des citoyens. Vous savez, au-delà de la réalité de votre gestion des élections, la confiance des parties prenantes est extrêmement importante. Et au Ghana, cette commission, jusqu'au dernier moment, elle a fait concession sur concession pour augmenter la transparence dans le processus. Au Ghana, si vous voulez, les partis politiques se donnent les moyens de jouer correctement leur rôle. Vous vous imaginez que le perdant a concédé la victoire sur la base des résultats collectés par le parti lui-même. Ils n'ont même pas attendu la proclamation de résultats provisoires par la commission. C'est sur la base des résultats qu'ils ont collectés eux-mêmes. Ça veut dire qu'un parti politique au Ghana est capable, le soir des élections, de collecter suffisamment de résultats pour savoir s'il a perdu ou non. Et donc pour moi, c'est une leçon pour les partis politiques dans la sous-région, c'est une leçon pour les commissions ou les organisations qui gèrent les élections en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier. Et pour moi, vraiment, il y a des choses qu'on peut apprendre sur les élections au Ghana.
L'un des grands rendez-vous électoraux de l'année prochaine, c'est la présidentielle de Côte d'Ivoire. C'est en octobre prochain. Qu'est-ce que vous en attendez ?
Disons que je pense qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, la commission électorale a besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour gagner la confiance des citoyens. Et donc, je pense que l'environnement en Côte d'Ivoire est un environnement qui a besoin d'un peu plus d'efforts pour réduire les vulnérabilités qui pourraient faire, une fois encore, que la Côte d'Ivoire organise des élections avec des risques de conflit.
Et si le président Ouattara décide décide de se présenter pour un quatrième mandat. Qu'est-ce que vous en penserez ?
Oh, disons que ma position sur cette question est connue. Moi, j'ai pensé qu'il n'aurait pas dû se présenter pour le troisième mandat. S'il se décide à aller pour le quatrième, tout le monde sait que ça va être encore un élément de clivage supplémentaire.
Est-ce que ces alternances réussies au Sénégal, au Ghana, peuvent aussi avoir un impact dans un pays comme le Togo, où le régime est en train de changer de constitution ?
Lorsque des présidents durent au pouvoir au-delà d'une certaine limite, c'est très difficile de les voir laisser simplement le peuple s'exprimer et d'écouter le peuple et de se soumettre à la décision, aux décisions du peuple. Et donc, moi, je ne lirai pas, par exemple, ce qui s'est passé au Ghana et au Sénégal. Je ne lirai pas ça à la situation au Togo et je ne verrai pas ça comme une dynamique qui pourrait avoir une influence quelconque sur ce qui se passe au Togo.
Mathias Hounpe, je vous remercie.
Essayiste, politologue, il répondait à Christophe Boisbouvier. Le prochain journal, c'est dans un petit peu plus de 5 minutes sur RFI. Mais d'abord, votre chronique, Maman. Vous aussi, vous faites le bilan de l'année 2024, mais dans la cour de récré. Et vous nous dites que ça a été très mouvementé.
Oui, dans la cour de récré, l'année 2024 a été une année de grand chamboule-tout. Et oui, notre cher et tendre cour de récré, avec ses deux poids et ses deux mesures, ses sanctions internationales et son soutien inconditionnel, notre cour de récré a vu sa topographie remoulinée façon ChatGPT, une cour de récré toute neuve, comme sortie des mains et du scalpel d'un chirurgien esthétique. Par exemple, faisons une petite escapade dans ce qui a longtemps été le barycentre de la cour de récré. Oui, barycentre pour parler comme les jeunes, à savoir le carré VIP, a.k.a. la communauté internationale, a.k.a. les grands de ce monde, a.k.a. le camp du bien. Qu'est-ce qui a changé dans le carré VIP ? Eh ben, on dirait que le carré VIP n'est plus ce qu'il a été. Hein. Manu, le jeune homme de 47 ans depuis quelques jours, Manu, doyen du carré VIP, puisqu'il est là depuis plus longtemps que les Olaf, Kerr, Georgia et compagnie, plus longtemps même que son futur ex-boss, Joe, qui s'en va cultiver ses fraises, qu'il sucrait allègrement depuis le premier jour de son premier mandat, paraît-il. Eh ben, tout ce beau monde du carré VIP est en train de claquer des dents. Pas à cause du froid hivernal, hein, mais à cause de ce qui promet de leur tomber dessus dès le 20 janvier prochain, quand Donald, I want again, reviendra dans le bureau ovale. It's payback time, a-t-il déjà promis. En français facile, vous allez me sentir. L'ex-bande d'Abarak se sent déjà orpheline parce qu'elle sait que Donald va encore les abandonner comme il l'avait fait lors de son précédent règne. Alors, chacun se cherche. Manu essaie de se débarrasser de l'entêtement tente odeur de dissolvant qu'il a sur les doigts depuis juin dernier à coup de recherche, de compromis et d'accords de non-censure. Kerr de Londres ne sait plus où il habite. Olaf en veut à Elon qui veut le faire déborder par l'extrême droite. Le même Elon à qui Georgia fait les yeux doux et davantage. En face, dans le préau, fief de Vlad le Costaud et Xi Jinping Shaolin, ce n'est pas bien différent. Tout le monde se dépêche de grignoter ce qu'il peut. Ah bah oui, avant le 20 janvier. Vlad, ceinture noire de judo, sait qu'en judo, ta force peut être retournée contre toi par ton adversaire pour te faire mordre la poussière. Alors, Vlad bétonne son pique-nique dans le jardin de Z de Kiev, sans faire de vagues, mais sans bouger. Mais de l'autre côté, Z de Kiev, lui, veut mettre du sable dans le pique-nique de Vlad pour lui faire remballer ses clics et ses claques. Du coup, Vlad a laissé tomber son protégé, le petit Bachar. Bachar qui a déguerpi dardard devant les barbus de Recep d'Istanbul d'un côté et les barrés de Benji a le droit de se défendre de l'autre. Recep et Benji, les deux, oui, les deux gagnants de ce chamboule-tout de la cour de récré. Mais le grand perdant, parce qu'il y en a un, c'est ce petit coin du préau qu'on appelait « n'a pas le droit d'exister ». Bah oui, sous les coups de boutoir de Benji, cette bandelette de la cour de récré n'a pas le droit d'exister et devenue « n'existe plus ». À lundi.
À lundi, Maman. Le journal de Diane Berger dans une minute. On sera en Syrie où les différentes factions armées doivent se dissoudre pour rejoindre le ministère de la Défense. Et puis on va revenir aussi sur le tsunami le plus meurtrier de l'histoire. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, en Asie. Je vous dis à tout de suite sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
C'était l'une des grandes voix de la littérature sud-africaine. Bretan Breitenbach est décédé en novembre dernier. Militant anti-apartheid, incarcéré pour ses idées, il incarnait l'idée même de liberté. Pour lui rendre hommage, je vous propose de réécouter un florilège des entretiens qu'il m'avait accordé en français sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI. Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.
Coola, coola, coola.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Le show afro de la radio au cœur des musiques pop et du panafricanisme. La jeunesse nous parle dans la génération consciente, la libre antenne. Les invités s'y expriment et répondent à vos questions. Le show afro de la radio, c'est couleur tropicale, Africa et ses diasporas.
Couleur tropicale, Claudiciard.
S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble.
Couleur tropicale, du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU. RFI. RFI, la sélection du mois.
François et The Atlas Mountains.
Parti du monde des vivants.
Jungle-y et Dadju.
J'ai reçu de l'amour, j'en redonne, c'est donnant, 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 donnant. Dis-moi toujours oui, t'auras tout ce que tu demandes, ce que tu demandes. C'est pas pour tout de suite, mais y aura la bague en diamant, bague en diamant.
RFI Musique.